Bonjour, le président du Conseil OTAN Russie, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, vous rendre compte de cette séance qui vient de se terminer du Conseil OTAN Russie. Oui, en effet, je viens de présider une séance du Conseil OTAN Russie. Il s'agit de la troisième réunion du Conseil OTAN Russie cette année. Nous avons eu une longue réunion où nous avons pu avoir des échanges très ouverts sur plusieurs questions de grande importance. Notre dialogue est loin d'être facile, mais c'est justement cela qui explique l'importance primordiale de ce dialogue. Aujourd'hui, nous avons abordé trois sujets: l'Ukraine, l'Afghanistan et la transparence et la réduction des risques. Les alliés de l'OTAN et la Fédération de Russie continuent d'afficher des divergences de vues fondamentales sur la question de la résolution de la crise en Ukraine. Et ce conflit continue d'avoir une incidence profonde sur la sécurité et la stabilité de la région euro-atlantique. Ce conflit reste la principale raison qui explique l'état actuel des relations entre l'OTAN et la Russie. Améliorer la situation de la sécurité dans l'est de l'Ukraine reste la priorité absolue s'agissant de progresser vers la pleine mise en œuvre des accords de Minsk. Par contre, la situation reste fragile et nous continuons à constater des violations du cessez-le-feu. L'armement lourd reste aligné le long de la ligne de contact et les membres de la mission d'observation de l'OSCE ont toujours beaucoup de difficultés d'accès, notamment à la frontière russo-ukrainienne. Et nous saluons tous les efforts diplomatiques consentis de part et d'autre pour favoriser la pleine mise en œuvre des accords de Minsk. Nous avons eu un échange très franc au sujet de la situation de la sécurité en Afghanistan, y compris la menace du terrorisme dans la région. Et là, nos analyses divergent de manière notable. Cela dit, nous avons tous collectivement intérêt à faire régner la sécurité et la stabilité en Afghanistan. La Russie nous a présenté un exposé sur sa politique en Afghanistan et les alliés ont fait état des efforts considérables déployés par l'OTAN afin de renforcer les forces de sécurité afghanes. Il est important pour tous de soutenir le gouvernement d'union nationale. Voilà le meilleur moyen de contrer le terrorisme en Afghanistan. Cela permettrait aussi de renforcer la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région. Nous avons abordé également la transparence et la réduction des risques. Cela reste une question fondamentale pour le Conseil OTAN Russie. L'année dernière, en effet, nous avions lancé un dialogue sur la sécurité aérienne dans la région de la mer Baltique. Dans la foulée, un groupe de spécialistes mené par la Finlande a été mis sur pied et consacré à la sécurité de l'aviation dans la mer Baltique. Les travaux de ce groupe se révèlent jusque-là très prometteurs. Et nous avons avancé cette année pour ce qui est de la posture de nos forces et les exercices militaires dans nos échanges d'informations. Nous avons eu notamment des exposés d'informations réciproques. Aujourd'hui, nous avons échangé des informations sur de récents exercices et les alliés ont bien souligné que l'ampleur et la portée géographique de l'exercice ZAPA 2017 dépassaient de loin ce que la Russie avait annoncé au préalable. Par le fait même, nous avons convenu de l'utilité de respecter le principe d'avoir des échanges réciproques d'informations sur nos exercices et j'espère que de tels échanges vont se multiplier au cours des prochaines séances du Conseil OTAN Russie. Nous avons convenu aussi de la nécessité de multiplier les actes de communication entre nos hauts dirigeants militaires afin de renforcer la transparence et la prévisibilité dans la région euro-atlantique. Nous devons tirer parti de ces convergences afin de réduire les risques et les incidents, les risques de malentendus du fait de la multiplication des activités militaires de la région. Monsieur le Secrétaire général, est-ce que vous avez pu en apprendre davantage sur l'exercice ZAPAD et est-ce que vous avez présenté à la Fédération de Russie votre évaluation des chiffres pour ce qui est des forces qui ont pris part à l'exercice ZAPAD? Bon, vous n'avez pas parlé de la Corée du Nord, mais vous vous rendrez dans la région et est-ce que dans les dialogues OTAN-Russie, il serait pertinent d'aborder cette question Et ce risque énorme pour la sécurité, est-ce que le consultant ici doit se prononcer sur cette question?
Pour ce qui est de Zapad, cela constitue un élément important de notre discussion de ce jour. Et bon nombre d'alliés ont parlé du fait qu'il y avait effectivement un décalage entre ce qui avait fait l'objet d'une présentation par la Russie avant l'exercice, et en particulier l'exposé présenté au Conseil OTAN Russie il y a quelques semaines de cela, et puis ce qui s'est passé en réalité, les chiffres auxquels on a pu être des témoins sur le terrain. Alors, les alliés ont dit que pour ce qui est des effectifs, du nombre d'hommes et de femmes sur le terrain, eh bien que c'était largement au-delà de ce qui avait été annoncé avant l'exercice. On a également dit que le scénario était de nature différente de ce qui avait été présenté. Et d'autre part, la zone géographique concernée était bien plus large que ce qui avait été annoncé dans un premier temps. Ainsi donc, les Alliés ont indiqué qu'il y avait un décalage important entre ce qui avait été annoncé par les Russes dans un premier temps et puis l'exercice tel qu'il s'est déroulé en réalité. Pour moi, il s'agit là en fait d'un autre élément qui milite en faveur de la tenue de tel exposé et de la poursuite de ce dialogue. En effet, c'est une manière de assister à des exposés, mais ensuite, cela nous donne la possibilité, après la tenue des exercices, de poser des questions et de mettre la Russie devant ces décalages qui peuvent exister entre exposés et observations pendant l'exercice en tant que tel. Pour ce qui est de la Corée du Nord, je vais me rendre en Corée du Sud et au Japon la semaine prochaine. Je pense que le comportement très dangereux de la Corée du Nord sera au cœur de nos conversations avec les dirigeants politiques, tant en Corée du Sud que au Japon. L'OTAN condamne fermement les tirs de missiles et le programme nucléaire coréen. Nous appelons la Corée du Nord à mettre un terme à ses programmes de développement de missiles et de programme nucléaire, de s'abstenir de poursuivre ses essais. Alors, la Russie a évidemment un rôle à jouer à l'heure de mettre la pression sur la Corée du Nord. La Russie fait en effet partie du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Russie est un voisin de la Corée du Nord. Donc, la Russie a un rôle à jouer pour veiller à ce que les sanctions soient pleinement mises en œuvre. Lors de la réunion de ce jour, nous n'avons pas évoqué la question de la Corée du Nord, mais évidemment, les alliés eux-mêmes discutent directement avec la Russie dans le cadre des Nations Unies. C'est un dossier qui est notamment traité au niveau du Conseil de sécurité. Le Deutsche Welle a la parole. Donc, agence de presse polonaise, j'aurais une question au sujet de ce que l'on a vu dans la presse il y a quelques jours de cela. On a dit que l'OTAN allait créer deux nouveaux QG. Est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer ces informations? Et si ça va se faire, pouvez-vous nous donner plus de détails à ce sujet? L'OTAN adapte sa posture militaire. En effet, nous devons nous adapter lorsque l'on constate que l'environnement sécuritaire évolue. Cela s'est fait notamment en renforçant le niveau de préparation de nos forces et en renforçant notre présence dans la partie est de l'Alliance. C'est quelque chose que nous faisons, notamment du fait du comportement russe dont nous avons été les témoins au cours des dernières années, avec en particulier l'annexion illégale de la Crimée et les efforts de déstabilisation qui existent vis-à-vis de l'est de l'Ukraine et de l'Ukraine prise dans son ensemble. C'est la raison pour laquelle l'OTAN a réagi. Notre réaction est de nature défensive, elle est de nature proportionnée. L'OTAN ne souhaite pas une nouvelle guerre froide, ne souhaite pas une nouvelle course aux armements, mais lorsque l'environnement sécuritaire évolue, nous devons nous adapter. Alors, nous sommes actuellement en train d'évaluer notre structure de commandement. Et la structure de commandement de l'OTAN fera l'objet de discussion lors de la réunion des ministres de la Défense au mois de novembre. Donc, je ne suis pas en mesure de vous donner de réponse précise, car c'est en fait un processus qui est en cours à l'OTAN. Cela étant, lorsque des décisions auront été prises, je serai bien entendu disposé à vous les communiquer et vous expliquer ce que nous sommes en train de faire. La Deutsche Welle.
En fait, je suis de la NPR des États-Unis. Donc, vous avez indiqué que les Alliés ont fait part de leur mécontentement devant ces décalages auprès de la Russie. Bon, la Russie sait pertinemment que les chiffres ne correspondent pas à ce qu'on avait annoncé. Alors, est-ce que vous étiez satisfait des réponses données par les représentants russes et est-ce que l'on a semblé enclin à adapter ou à renégocier le document de Vienne en vertu duquel il aurait fallu prévoir davantage d'accès pour les observateurs? Donc, est-ce que vous croyez avoir avancé sur ce front? Au sein du Conseil OTAN Russie, j'ai pour rôle de présider la séance où participent 30 pays, soit les 29 pays alliés et la Fédération de Russie, mais de nombreux alliés ont posé des questions sur les décalages entre ce que la Russie nous avait annoncé au préalable et les effectifs ainsi que la portée réelle de l'exercice. Nous devons essentiellement veiller à ce que la Russie se conforme entièrement au document de Vienne, à la fois avec l'esprit et la lettre du document de Vienne, tel est le message que nous communiquons. Mais comme vous l'auriez constaté à l'occasion de l'exercice ZAPAD, il faut absolument moderniser le document de Vienne. Pour ce qui est des exercices préavis, il y a différents seuils, notamment pour ce qui est de la présence obligatoire d'observateurs. Donc, le document de Vienne comporte des failles et les alliés de l'OTAN ont avancé des propositions concrètes d'amélioration à Vienne destinées à renforcer l'utilité du document pour ce qui est de renforcer la transparence et réduire les risques. Il y a la possibilité, en cas d'exercice inopiné, d'avoir des missions d'observation sans préavis aussi. Il est proposé par ailleurs de réduire le seuil de notification. Alors, on voit que les tensions s'avivent, on voit le renforcement des forces armées à nos frontières et tout cela augmente d'autant le risque d'accidents et d'incidents. Nous devons donc faire tout à notre pouvoir pour éviter les malentendus, les incidents, les accidents, les erreurs de calcul. Et si de tels incidents se produisent, nous devons en empêcher l'escalade. L'importance de ces outils et le respect de ces outils, tout cela revêt désormais la plus grande importance et nous en appelons à la Russie à respecter ce document et nous voulons que la Russie participe avec nous à cette réflexion sur la modernisation du document de Vienne aux fins de la transparence et de la réduction des risques.
Reuters, oui, sur le Bélarus, il y avait une certaine confusion quant à savoir si les troupes russes avaient quitté le Bélarus après l'exercice. L'Ukraine, qui ne fait pas partie de l'OTAN, a dit qu'il en avait qui étaient partis. Que pensez-vous de la situation? Est-ce que vous êtes certain que les troupes russes sont effectivement parties après l'exercice? Bien, merci. C'est effectivement un point qui a été soulevé aujourd'hui. Nous n'avons pas d'informations selon lesquelles les Russes auraient laissé des troupes au Bélarus et les Biélorussiens ont indiqué que ça n'avait pas été le cas. Alors, nous sommes encore en train d'évaluer l'exercice, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vu de signe qui donne l'impression qu'ils auraient laissé des troupes dans le pays. Associated Press. Autre question. Il y a au moins un allié et deux pays partenaires qui ont soulevé des préoccupations pendant ZAPAD avec le déploiement de moyens électroniques qui avaient nuit au réseau téléphonique. Est-ce que ça a été évoqué et quelle a été la réponse? Alors, il y a plusieurs alliés, en tout cas au moins deux, qui ont fait état de ce à quoi vous faites référence, et cela ne fait que confirmer l'importance de la transparence. Cela montre l'importance qu'il y a à procéder à des exposés avant les exercices. Il est très important d'éviter tout malentendu, car ce type d'activité peut avoir des conséquences importantes. Alors, je ne saurais vous donner des détails sur ce qui a été rapporté par les différents pays, mais pour moi, encore une fois, ce rapport ou ces rapports, ces informations montrent l'importance de la transparence et montrent qu'il faut avoir des mécanismes en place pour éviter de telles répercussions et conséquences négatives pour des alliés de l'OTAN ou pour d'autres pays voisins.
Agence France-Presse. Oui, merci, Monsieur le Secrétaire général. Dans des médias allemands, nous lisons que des diplomates allemands ont eu des informations de leurs homologues russes sur le fait que la Russie envisage d'organiser des exercices ZAPAD tous les 2 ans désormais. Est-ce que vous avez eu de telles indications et quelles sont les conséquences à tirer de l'avis de l'OTAN quant à la posture militaire de la Russie à l'égard de l'Ouest? Chaque pays a le droit d'entraîner ses forces. La Russie ne fait pas exception. Alors, ce que l'OTAN peut communiquer comme message, c'est que cela doit se faire de manière prévisible et transparente pour ne pas accentuer les tensions ou créer des malentendus. Et comme nous l'avions vu par le passé, on a profité d'exercices pour camoufler des agissements agressifs contre des pays voisins. Ce fut le cas notamment en Géorgie en 2008 et en 2014 en Ukraine. Bien sûr, il est donc extrêmement important pour chaque pays de jouir de son droit d'entraîner ses forces, mais ces exercices ne doivent pas servir de source d'un accroissement du niveau de danger ou d'instabilité. On ne nous a pas indiqué que les exercices ZAPAD doivent avoir lieu tous les 2 ans. Je vous invite à poser cette question à la Russie. C'est à elle d'en décider. Mais quelle que soit la fréquence des exercices ZAPAD, ils doivent être organisés dans la transparence et en conformité avec les obligations internationales qui incombent à la Russie, dont le document de Vienne, qui vise à assurer la transparence. Encore une question?
Je vous remercie, Monsieur le Secrétaire général. Vous l'avez dit, vous avez également évoqué l'Afghanistan. Alors, même si tout le monde parle de la Russie, je voudrais en savoir plus sur ce pays-là. Est-ce que la question du soutien aux talibans par les Russes a été soulevée? Et si oui, quelle a été la réaction de la part de la Russie? La question a effectivement été soulevée. Plusieurs pays ont indiqué que le gouvernement afghan avait fait part de préoccupations s'agissant d'un soutien de la Russie aux talibans. Alors, les Russes ont nié, mais la question a bien été soulevée. Le message de l'OTAN en la matière, c'est que nous exprimons fortement notre soutien par rapport à un processus de réconciliation mené, dirigé, pris en charge par les Afghans eux-mêmes. C'est cela que nous soutenons donc fortement et nous nous félicitons de l'initiative du président M. Ghani pour créer les bases nécessaires pour la résolution pacifique du conflit en Afghanistan. Par ailleurs, nous avons clairement indiqué que nous allions continuer à soutenir l'Afghanistan, nous allons les aider pour ce qui est de l'entraînement de leurs forces, pour renforcer ces forces de sécurité. Je me suis rendu en Afghanistan avec le ministre de la Défense, M. Mattis, ainsi que Mme Hutchison, la représentante des États-Unis. On a rencontré le président, M. Ghani, le chef de l'exécutif, M. Abdullah, et on a vu avec eux comment on pouvait faire en sorte que les Afghans puissent faire passer le message aux talibans que la victoire sur le champ de bataille était impossible à envisager et que la seule manière d'arriver à une solution était de s'asseoir et de négocier avec le gouvernement d'Union nationale. Merci beaucoup. Voilà qui met un terme à cette conférence de presse. Je vous remercie.